Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda.
La ministre d'État aux Affaires étrangères fait cette mise au point face à une certaine opinion qui considère que l'accord de paix signé à Washington consacre le bradage des ressources minières de la RDC. Les autorités congolaises appelées à agir rapidement pour éviter l'isolement financier international et diplomatique de la RDC alertent la cellule nationale des renseignements financiers. Dans une communication hier, la CNRF énumère 23 actions mises en œuvre pour éviter l'escalade de la RDC vers la liste noire. Et puis, Médecins sans frontières assure depuis plus d'un mois la prise en charge médicale gratuite des milliers de déplacés sud-soudanais installés à Arou, en Ituri. MSF intervient également dans plusieurs localités. Pour en parler, nous recevons le chef de mission de MSF, Frédéric Manacho. Madame, Messieurs, bonjour. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères assure que l'accord de paix de Washington ne consacre nulle part le bradage des ressources minières de la RDC. Thérèse Kayikwamba a fait cette mise au point hier, jeudi, à Kinshasa, lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Muyaya. La chef de la diplomatie congolaise précise que cet accord est centré notamment sur la cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères et le retour de la paix dans l'Est du pays. On écoute la ministre Thérèse Kayikwamba Wagner dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kampala.
Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'est de notre pays. Et donc l'idée, c'est justement d'aller d'un contexte dans lequel on s'accuse mutuellement vers un contexte justement où il y a plus de transparence et plus de visibilité. Il ne s'agit pas que du fait que le Rwanda va maintenant certifier nos minerais ou que nous allons certifier les minerais rwandais. On s'appuie sur les mécanismes, par exemple, de la CIRGL pour dire justement si nous voulons que la question des ressources naturelles ne soit plus une question épineuse, si nous voulons aller au-delà des accusations mutuelle des uns et des autres. Nous devons renforcer cet aspect-là des mécanismes qui existent déjà au niveau de la région, à savoir les mécanismes aussi de certification.
Pour sa part, Patrick Muyaya fait savoir que le gouvernement envisage d'organiser des émissions télévisées et radiodiffusées dans les quatre langues nationales pour permettre à tout Congolais de mieux comprendre le contenu de cet accord. Par ailleurs, un rapport accablant et des chiffres qui interpellent a été rendu public mercredi 2 juillet. Ce rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC met en évidence l'implication directe et massive du Rwanda dans les opérations militaires de l'FCM-23 contre la RDC. Le document évoque le déploiement des milliers de soldats rwandais sur le sol congolais pour soutenir la rébellion dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Martial Papimukeba pour les détails.
Les rapports révèlent qu'environ 6000 soldats rwandais, dont des forces spéciales, ont été déployés entre janvier et mai 2025 au nord et sud Kivu pour soutenir l'AFC M23, notamment lors des offensives sur Goma et Bukavu. Après la prise de Goma, une partie est rentrée au Rwanda, l'autre est redéployée à Bukavu pour poursuivre des opérations discrètes. Parmi les responsables cités figurent James Kabarebe, ministre de la coopération régionale et ancien chef d'état-major, le général Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée rwandaise RDF, et le général Patrick Karuretwa, président de la haute cour militaire du Rwanda. Le RDF aurait établi un quartier général à Gisenyi, ville frontalière de Goma, avec pour objectif non pas la neutralisation des FDLR, mais la conquête des territoires. Ce contrôle a renforcé l'AFC M23 et permis au Rwanda d'accéder aux ressources minières, aux terres agricoles et d'accroître son influence politique en RDC. Les rapports évoque aussi un vaste recrutement par l'AFC M23 incluant d'anciens militaires des FRDC, combattants Wazalendo, ex-militaires rwandais et membres de la diaspora enrôlés volontairement ou sous contrainte. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
autre nouvelle, je vous le disais en titre, les autorités congolaises appelées à agir rapidement pour éviter l'escalade vers la liste noire avec comme conséquence grave l'isolement financier international et diplomatique de la RDC. L'alerte est donnée par la Cellule nationale des renseignements financiers, CNRF. Dans sa communication d'hier jeudi, le secrétaire exécutif de la CNRF énumère 23 actions mises en œuvre pour éviter l'escalade en octobre prochain. La mise en œuvre de ces actions représente un taux de plus de 56% et celles non encore traitées sont à 8,7%. Explication Jeff Ngoy Mulunda.
En 2018, le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale avait négativement évalué le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux en RDC non conforme aux standards internationaux et aux recommandations du groupe d'action financière. C'est ainsi qu'en octobre 2022, le GAFI a placé la RDC sur la liste des pays sous surveillance renforcée, dite grise. Ce qui entraîne plusieurs conséquences économiques pour la RDC, que le secrétaire exécutif de la CNRF, l'avocat général Adler Kisula, explique.
Cette inscription entraîne notamment la baisse des investissements étrangers et de l'aide internationale, la difficulté d'élever de fonds sur les marchés financiers internationaux, le ralentissement du développement et de la croissance économique, difficulté d'accès aux services bancaires, la rupture des relations des correspondances bancaires, donc des de-risking bancaires, difficulté de rapatrier les fonds en provenance de l'étranger, mais aussi celle des transférer les fonds à l'étranger et la baisse des réserves d'échange et l'instabilité économique. C'est ainsi que nous avons alerté pour dire que non, l'échéance convenue avec le GAFI va arriver à son terme.
Selon la CNRF, ses conséquences risquent de préjudicier l'accord conclu avec Washington. Il attend la promulgation de la loi anti-blanchiment des capitaux votée au Parlement et invite toutes les structures publiques et privées de la RDC à se mobiliser.
Dans l'actualité aussi, le Fonds monétaire international FMI a donné son feu vert mercredi pour la première revue du programme conclu avec la République démocratique du Congo dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Le FMI vient donc approuver un nouveau décaissement d'environ 262 millions de dollars. Dans son communiqué parvenu jeudi à Radio Kapi, le FMI dit saluer la résilience de l'économie congolaise malgré les défis actuels. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Cette décision du FMI ouvre la voie à un nouveau décaissement de 261,9 millions de dollars américains, une somme qui intervient en soutien à la poursuite des réformes structurelles engagées par le gouvernement congolais. Cette approbation du FMI est une reconnaissance de la résilience de l'économie congolaise malgré les défis sécuritaires et humanitaires persistants dans l'est du pays. Le FMI salue la croissance économique estimée à 6,5%, l'inflation nettement reculé, passant de 23,8% en décembre 2023 à seulement 8,53% fin juin 2025. D'après le ministre des Finances, ces nouvelles ressources du FMI combinées à un financement de 600 millions de dollars américains de la Banque mondiale et aux recettes fiscales attendues en juillet devraient permettre de soutenir les investissements publics, l'objectif étant d'amplifier les retombées économiques pour l'ensemble de la population. Doudou Fouamba réaffirme la détermination de la RDC à consolider les réformes engagées et à maintenir le cap de la stabilité économique.
Pendant ce temps, dans la province de la Tchopo, les opérateurs miniers, les cadres de ce secteur, les chefs d'agences et des banques ainsi que les partenaires ciblés s'imprègnent des textes légaux et réglementaires du secteur minier. Ces assises de 3 jours sont organisées à l'hôtel Congo Palace à Kisangani par le ministère provincial des mines sous le haut patronage du gouverneur de province Paulin Lendongolia. Pour le ministre provincial des mines Thomas César Messemo, aucun projet de crédit de développement ne peut se réaliser durablement sans la maîtrise des textes réglementaires qui régissent le secteur des mines. Le ministre provincial des mines dans la Tchopo, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Il est donc indispensable que chaque opérateur économique, chaque opérateur minier, partenaire technique et financier, chaque responsable administratif ait une parfaite compréhension des dispositions légales et réglementaires qui encadrent l'exploitation minière. La vulgarisation de ces textes est une étape incontournable car elle nous permettra de créer un climat de confiance et de transparence préalable à toute action collective. Ce n'est qu'en maîtrisant les obligations, les droits et les devoirs de chaque acteur que nous pourrons prévenir les conflits, renforcer la redevabilité et assurer une meilleure redistribution des retombées économiques. Le secteur minier occupe une place très capitale dans la dynamique de développement de notre province. La Tchopo regorge d'innombrables potentialités, de vastes gisements inexploités, des ressources stratégiques, des opportunités d'investissement qui, si elles sont convenablement encadrées et valorisées, peuvent transformer en profondeur notre économie locale.
Rendons-nous dans le territoire de Madimba, au Congo central. Les habitants des villages riverains de la compagnie minière de la Luka et Akomilu ont organisé un sit-in mercredi devant les installations de cette compagnie située au village Mbamba Kikenda, secteur de Ngoufou. À travers ce mouvement, les manifestants dénoncent les effets néfastes de l'exploitation minière sur leurs terres et leur environnement et exigent le respect des droits des communautés locales. Ils appellent à l'implication des autorités provinciales pour amener cette entreprise à respecter ses responsabilités sociétales envers les communautés locales. Nana Plurish Mambou nous fait le point.
Venus de plusieurs villages environnant la compagnie minière de la Lukaya, dont Kimbinga et Mbamba dans le secteur de Ngoufou, ces manifestants en sit-in étaient munis de calicots portant mention « Respect au code minier, respect aux droits des communautés locales, respect à l'égard de l'association d'intérêt communautaire de la Lukaya, laquelle représente et défend les communautés locales face à la compagnie minière de la Lukaya, Komilou en sigle ». D'après Glody Pembele, président de cette structure, ce mouvement a des objectifs. D'abord, dénoncer les effets néfastes de l'exploitation minière sur la terre et l'environnement des riverains. Ensuite, exiger à cette entreprise minière à négocier et à s'engager exclusivement avec cette structure pour toute question concernant les communautés locales. Pour dissiper tout malentendu en rapport avec les responsabilités sociétales de la compagnie minière de la Lukaya envers les communautés locales, les représentants des communautés locales disent avoir saisi le ministre provincial en charge des mines. Ils lui demandent de convoquer une réunion qui mettra autour d'une même table le gouvernement provincial, la direction de la Komilou et les représentants de l'association d'intérêt communautaire de la Lukaya. Matadi, Nana Pirish Mambou, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le Kasaï central qui accueille son nouveau chef de la police nationale congolaise. Hier, sur la place de l'indépendance à Kananga, le commissaire provincial Mania Kabeachani a officiellement pris ses fonctions. Expert en sécurité et défense, son arrivée marque une étape importante dans le renforcement de l'ordre public dans cette province située au centre du pays. Bonne nouvelle pour la population du Maniema. Désormais, cette province dispose d'une usine de production de l'oxygène médical, un don du gouvernement congolais. La cérémonie de remise de cette usine à l'autorité provinciale a eu lieu le mercredi. Cette usine, construite à hauteur de près $1 million, a bénéficié du financement du Fonds mondial à travers l'ASBEL Santé Rurale, SANRU. C'est dans le cadre de la vision santé universelle du chef de l'État. Cette usine vient résoudre le problème de détresse respiratoire longtemps décrié par la population du Maniema. D'après le chef de division de la santé, les enquêtes menées en 2023 révèlent que la province ne disposait même pas d'un litre d'oxygène médical dans son ensemble. Florence Kizalunga pour le détail.
Le médecin directeur de l'hôpital provincial où est installée cette usine s'est dit être l'homme le plus heureux. Docteur Jean Bourédi fait savoir que ses dons viennent résoudre un sérieux problème de population.
C'est chaque semaine que nous enregistrons peut-être un ou deux décès dits au manque d'oxygène. Et notre hôpital est insuffisamment alimenté en énergie électrique. Vous comprendrez qu'avec les concentrateurs d'oxygène qu'on avait, qu'il fallait faire tourner avec les courants de la SNEL, mais qui est un peu non permanent à Kindu.
Le chef de division au programme national de lutte contre les infections respiratoires aigu et membre du groupe de travail sur l'oxygène médical donne la capacité de production de cette usine. Docteur Chizemba Marie-Albert.
La capacité est que pendant 24 heures, l'usine est capable de produire 52 bouteilles de 50 litres d'oxygène produits par jour.
En plus de remerciements, le gouverneur de province recommande au chef de division une utilisation rationnel de cette usine. Signalons que la province du Maniema est la 23e province à bénéficier de l'usine de production de l'oxygène médical. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le Premier ministre éthiopien annonce l'achèvement du barrage hydroélectrique controversé de son pays sur le Nil. L'Égypte s'oppose depuis longtemps à ce barrage, craignant qu'il n'épuise sa part des eaux du Nil. L'Égypte a qualifié ce barrage, connu sous le nom de Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, de menace existentielle car le pays le plus peuplé du monde arabe dépend presque entièrement du Nil pour son approvisionnement en eau agricole et pour ses plus de 100 millions d'habitants. L'Éthiopie conteste cette suggestion et insiste sur le fait qu'elle n'a pas besoin d'autorisation étrangère pour construire le barrage qu'elle considère comme essentiel à son développement.
L'invité.
Nous sommes en Ituri. L'ONG internationale Médecins sans frontières, MSF, assure depuis plus d'un mois la prise en charge médicale gratuite des milliers de déplacés sud-soudanais installés dans le territoire d'Arou, 260 km au nord de Bounia. MSF intervient également dans plusieurs localités de l'Ituri pour les soins gratuits des victimes de violences armées. Le chef de mission de MSF, Frédéric Malacho, en parle avec Isaac Remoyope.
Bonjour, une équipe d'MSF vient de s'installer à Ngbokolo dans la chefferie de Kakwa pour la prise en charge des réfugiés du Soudan du Sud. Quelle est la nature de votre intervention dans la...
Nous avons une équipe qui a été déployée sur Ngbokolo il y a 6 semaines de cela, suite à une alerte de l'arrivée de réfugiés sud-soudanaises. Et l'alerte a été soulevée par le CNR. Nous sommes allés là-bas pour évaluer et voir les besoins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins au niveau santé. On a donc décidé d'assister à ces réfugiés, mais également à la population autochtone dans cette région-là. Aujourd'hui, nous avons 2 équipes de cliniques mobiles qui font des cliniques mobiles 3 à 4 fois par semaine pour donner accès aux soins à la population autochtone, mais également à ces réfugiés-là.
Il y a combien de bénéficiaires jusque-là? Est-ce que la prise en charge aussi s'est faite de manière holistique pour tous les cas que vous avez constatés dans la zone?
Aujourd'hui, selon les chiffres de CNR, il y a plus ou moins 30 000 réfugiés sud-soudanais. Toujours selon la CNR, il y a toujours des arrivées. Aujourd'hui, nous avons pu faire 1600 consultations depuis notre arrivée avec une grande partie la population sud-soudanaise, mais on appuie aussi les centres de santé et aussi la population autochtone, comme je disais, a aussi accès à ces consultations vu que les réfugiés ne sont pas dans un site mais plutôt dans la famille d'accueil, donc on prend de façon holistique les besoins médicaux.
Et quel est le constat de la situation humanitaire que vous avez fait dans la région qui justifie l'urgence de votre intervention pendant que MSF se désengage pour certains services, notamment l'hôpital clinique Salama ou certaines catégories de blessés qui ne font plus part de votre priorité?
Alors premièrement, MSF ne s'est pas désengagé, on a juste réajusté un peu les critères d'admission parce que les autres structures ont la capacité de prendre ce type de blessés qui ne met pas en danger la vie du patient. Donc ça, je pense qu'il y a pas mal de structures que nous avons formées de surcroît peuvent prendre en charge. Donc on a un peu, si vous voulez, pas désengagé mais plutôt décentralisé ce type de patients pour pouvoir garder Salama comme spécialisation sur le trauma de cas graves où la vie des patients est en danger. Les besoins, pour revenir à votre deuxième question sur Adi, les besoins sont énormes, sont criants. Hein. Là, on constate que la malnutrition est fortement élevée, au-delà du PALU qui fait à peu près 70% de taux de consultation. Il y a aussi la nutrition qui nous inquiète. Parmi les patients que nous avons, il y a quand même 6% de masse sur les malnutritions, les enfants que nous recevons. C'est déjà une sonnette d'alarme sur la situation nutritionnelle qui risque de s'aggraver. Et aussi tout ce qui est NFI, distribution des vivres et tout ça, ça c'est très important pour que ce soit très vite abordé et assisté.
Quelle est la durée d'intervention de MSF? Est-ce que c'est une intervention ponctuelle ou cela va s'étendre dans les temps, peut-être sur plusieurs mois et pour quelle finalité?
Aujourd'hui, on a une visibilité pour 3 mois. Après, nous, on reste flexible selon les besoins. Si la situation du Sud-Soudan reste aujourd'hui préoccupante et qu'elle continue comme telle, ben on va s'adapter, on restera un peu plus longtemps, mais pour l'instant on a une visibilité sur 3 mois. Si les gens sont rentrés chez eux, alors dans ce cas-là on arrête, mais si on voit que les besoins sont toujours là, on y restera, donc on s'adaptera par rapport à ça.
De manière générale, quel bilan faites-vous de vos interventions ou des actions que vous menez en faveur de la population dans le cadre humanitaire?
Nous avons sur l'Ituri, nous avons actuellement 4 projets. On a le projet Bounia. Et depuis 2 ans, on a pu faire plus de 4000 interventions chirurgicales liées à la violence et à accidents de voie publique. Et plus de 10 000 séances de rééducation et physiothérapie. On appuie 15 autres structures sanitaires. Et ces 15 structures, en 2 ans, ont pu référer plus de 1000 patients. Donc, ils ont stabilisé et référé vers Salama pour des cas compliqués de chirurgie. Nous avons un projet à Drodro. C'est plus un projet d'accès aux soins primaire, mais également aussi pédiatrique, donc des enfants jusqu'à 15 ans, où on est présent dans le site de Ro et Che, mais également on appuie aussi l'aire de santé de Gokba, de Blukwambi, et avec un appui ponctuel sur Jiba. C'est un projet qui est là depuis 2018. Nous avons un autre projet qui est sur Angoumou, où initialement ça a été pour les déplacés, au début de son intervention, mais très vite on a aussi également constaté qu'il y a beaucoup de palus, et donc c'est devenu un projet vertical médical palu et qui couvre autant les déplacés que la population autochtone dans la zone de santé de Angoumou.
Monsieur le chef du bureau de MSF, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.